Retour au printemps des légendes et à cette émission qui vous relate ce qui s'est passé le week-end dernier à Monthermé. Vous êtes sur Radio Bouton et on vous parle du printemps des légendes. Donc on vous a parlé tout à l'heure un petit peu de ce qu'était le monde légendaire et une ambiance du festival en question. Et là, vous entendez derrière moi la musique des Passe-Goulettes qui est venu, le groupe qui est venu animer ici le salon du livre. Et dans le cadre de ce salon du livre, je reçois Vanessa Terral, Magali Gouzigou et Anthony Boulanger pour une association d'édition, donc des éditions associatives qui s'appelle Transition. Cette association, pardon, publie deux revues, l'une s'appelle Pénombre et l'autre Éveil, et publie de jeunes auteurs. Mais pour nous en dire plus, je cède la parole à Vanessa Terral. Bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup de nous accueillir.
Je vous en prie. Donc, une édition associative, deux revues littéraires qui publient à la fois donc des textes, des nouvelles, mais aussi qui donnent la part, assez belle d'ailleurs, à quelques illustrateurs.
Oui, en effet, nous sommes plutôt, en fait, les nouvelles prennent beaucoup plus de place que les illustrations. Donc, du coup, la revue est... par sa taille est davantage consacrée aux nouvelles, mais nous publions des illustrateurs, de jeunes illustrateurs qui débutent dans le milieu professionnel, tout comme les auteurs parfois sont des auteurs qui tentent aussi de se faire reconnaître par le milieu pro, et nous publions aussi des poèmes et des BD.
D'accord, donc un panel assez large en fait de publications.
En effet, c'est surtout centré sur l'ambiance que dégagent les œuvres.
Donc, je le disais, deux revues littéraires, une s'intitule Pénombre, et voilà, donc dans chacune des revues, c'est un univers particulier, une atmosphère différente. La première, donc Pénombre, est-elle plus reliée au côté fantastique ?
Oui, en effet, elle est plus reliée au côté fantastique. D'ailleurs, elle est sous-titrée « Créatures de la nuit et féeries urbaines ». Elle est plus sombre, c'est du contemporain, même si on accepte aussi que ça aille quelques années en arrière, quelques années en avant, pour laisser plus d'aise aux auteurs. Donc c'est plus sombre, comme son nom l'indique. Oui, en fait, chaque revue a une partie thématique et une partie libre. Et donc, dans les deux premiers numéros de Pénombre, nous avons essayé de faire original. Et le premier est consacré au passage clouté. Le deuxième est consacré aux toits, gouttières, greniers.
Alors dans les greniers, sous les toits, on imagine bien qu'il peut y avoir des choses cachées, etc. Mais les passages cloutés ?
Si, il y a eu. Franchement, j'ai été étonnée de l'imagination dont ont fait preuve les auteurs. D'ailleurs, c'est vrai que j'allais dire on va vous faire découvrir un des monstres, mais en fait non, parce que sinon ça va vous faire perdre tout le charme de la nouvelle. Mais vraiment, à la fois le passage clouté, mais aussi ce qu'il y a autour. Le passage clouté est à la fois un lieu de transition justement, et peut être le monstre, et peut être une partie du monstre.
Très bien, donc du mystère dans tout ça. Vous êtes basé où ?
Nous sommes basés dans les Hauts-de-Seine.
Les Hauts-de-Seine. Donc c'est pas très très loin au final.
Non, ça va, c'est pratique pour venir.
Et est-ce que donc votre association, on peut aller découvrir les différentes choses que vous publiez sur un site internet, des choses comme ça ?
Oui, nous avons un forum et un blog en fait. Donc si c'est pour un aperçu rapide, il vaut mieux aller sur le blog projet.transition.free.fr/blog, et avec juste la base. projet.transition.free.fr, vous arrivez sur notre forum où les choses sont beaucoup plus développées, vous pouvez poser des questions.
D'accord, on vous accueillera. On aura l'occasion de redonner les coordonnées tout à l'heure. Une deuxième revue, Éveil. Cette fois-ci, l'ambiance est différente.
Ah, très différente, oui. Autant la première, je ne la conseille pas pour les enfants, autant la deuxième, il y a des nouvelles qui sont conseillées par des mères de famille, c'est pour vous dire. L'ambiance est beaucoup plus lumineuse. À nouveau, on retrouve une partie thématique et une partie libre. À nouveau, on retrouve illustrations, couleurs d'ailleurs, nouvelles, poèmes. Ce n'est plus forcément du fantastique. On peut trouver du merveilleux. On trouve des nouvelles avec des petites fées. On trouve des nouvelles qui se laissent bercer au fil de l'eau. C'est plus le plaisir de vivre, en fait. Vraiment.
D'accord. Et alors, plusieurs questions qui sont uniquement liées à l'association. Elle est née comment, cette association-là ?
Oula. Alors cette association est née vraiment en fait pour publier les fanzines, c'est-à-dire que ça fait longtemps que... Alors fanzine, je ne sais pas si vous avez déjà expliqué ce que c'est.
Non.
Fanzine, rapidement, c'est une, ce sont des revues faites par des fans, d'où leur nom, des magazines de fans. Alors certaines sont de très bonne qualité, on les appelle fanzines parce que ce ne sont pas destinées professionnelles, c'est-à-dire que les auteurs ne sont pas forcément rémunérés. Après, voilà, sans dans certains soucis techniques.
C'est en règle générale, oui, c'est beaucoup voilà, utilisé dans la bande dessinée pour se faire connaître en fait.
Voilà, mais du coup, dans le monde du fantasy, du fantastique et de la science-fiction, des auteurs et illustrateurs utilisent ce moyen-là aussi pour se faire connaître, mais aussi pour se faire plaisir. On trouve des personnes qui sont passées professionnelles, qui vivent de leur métier, qui trouvent une plus grande liberté dans les fanzines et donc continuent à publier là-dedans. Donc l'association est née avant tout pour Pénombre et Éveil. Et Pénombre et Éveil, en fait, sont deux univers qui me tiennent à cœur. C'est-à-dire que vraiment le fantastique contemporain, montrer nos villes, montrer nos villages avec un visage légendaire, un visage fantastique, pouvoir transformer le quotidien, vraiment, est quelque chose qui me tient à cœur aussi en tant qu'auteur d'ailleurs. Et je voulais proposer à d'autres auteurs et d'autres illustrateurs de pouvoir modifier leur vie en fait, leur quotidien. Et Éveil, en fait, aucun fanzine, à ma connaissance, ne propose de nouvelles, j'allais dire émerveillées, mais oui, ne propose une thématique qui est de transcender les genres pour des textes et des illustrations, j'allais dire éveillées, mais oui, merveilleux, qui font briller une étincelle dans le cœur des gens. Désolée, c'est un peu des envolées lyriques.
Oui,
mais...
oui, c'est poétique, dans le fond.
Oui. La pensée d'éveil est poétique.
Mais de toute façon, la poésie fait partie d'une façon ou d'une autre du merveilleux et du fantastique, que ce soit une poésie sombre dans le fantastique et une poésie beaucoup plus lumineuse dans le merveilleux.
Oui, en effet.
Vous êtes venu avec deux auteurs, Anthony Boulanger et Magali Cousigou. On a la chance qu'ils soient d'accord pour nous lire quelques-uns des passages de leurs œuvres. Alors, le premier qui va nous parler de sa nouvelle, qui est publiée dans le Pénombre numéro 1. Là, cette fois-ci, on est dans le côté fantastique. La nouvelle s'appelle « Un sourire éclatant ». Il s'appelle Anthony Boulanger. Et il va nous dire ce qu'il y a derrière ce sourire éclatant.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, alors tout d'abord, derrière un sourire éclatant, c'est un titre un peu énigmatique. On peut pas. La relation avec le passage clouté n'est pas tout de suite évidente, en tout cas si on n'a pas le numéro entre les mains.
Alors le passage clouté, c'était la thématique, on en a parlé tout à l'heure, de ce numéro-là. Voilà. Et vous avez répondu à cette thématique par ce sourire éclatant.
Voilà, le texte est vraiment né pour cet appel à texte en particulier. Donc Vanessa avait publié sa volonté de faire un fanzine à partir de la thématique passage clouté. Donc j'ai répondu avec ce texte et il a été accepté. Merci. Et derrière un sourire éclatant, en fait, ça va être la rencontre entre un homme qui habite dans Paris même. Un homme qui tous les jours va traverser un certain passage clouté et qui un jour va se rendre compte que ce passage clouté en particulier a vraiment, est particulier justement, a une particularité par rapport à tous les autres autour de la place et c'est qu'il est propre. Donc il est éclatant au sens premier du terme. Et la nouvelle va raconter comment cet homme, l'investigation de cet homme pour expliquer ce mystère en fait.
Et c'est votre première publication ?
Alors j'ai commencé les publications dans les webzines. Donc les webzines c'est le côté fanzine mais publié sur
Internet,
le web, voilà. Et avant ça j'ai eu la chance de publier dans des anthologies, dans des maisons d'édition comme la maison d'édition Argemios ou dans la maison d'édition Sombreret. Et là, c'est la première publication en fanzine de ce niveau-là, en tout cas.
Très bien. Eh bien, on va juste en écouter un petit morceau qui nous est lu par Vanessa Terral.
Après plusieurs semaines de ce petit manège, où je remarquais à chaque début de journée la propreté immaculée de la chaussée, je décidais un soir de m'installer à ma fenêtre pour la nuit. Cette histoire m'intriguait. Un bon livre à la main, un thermos de café à côté de moi, j'étais prêt à passer une nuit blanche. Les heures défilaient lentement, et sous mes yeux, les phrases du roman commençaient à se brouiller tandis que les fourmis me dévoraient les jambes. À 3 heures du matin, rien n'indiquait, la lueur des réverbères, que l'on fût venu nettoyer le passage. 20 minutes plus tard, je me levais de mon fauteuil. direction les toilettes pour un arrêt obligatoire. Dernier coup d'œil sur les bandes blanches, rien n'avait bougé. Mais si j'en croyais la loi de Murphy, et j'y crois, c'était à ce moment précis que tout allait se passer. Je courus jusqu'aux toilettes, et on revint, et comme de bien entendu, mon invocation de Murphy n'avait pas raté. J'ouvris la fenêtre pour être sûre, mais le passage clouté scintillait bel et bien dans la nuit parisienne. Impossible qu'il ait été nettoyé aussi vite. Quelqu'un avait balancé de l'acide ou quoi? Je descendis les escaliers 4 à 4 et me précipitai vers la place. Elle était déserte. Il n'y avait que moi, les feux de signalisation et ces bandes blanches qui me narguaient. Dépité, je rentrai chez moi pour profiter de la poignée d'heures qu'il me restait pour dormir. En me levant le jour suivant, je me sentis quelque peu ridicule. Qu'est-ce que j'en ai fait à faire, après tout, des lubies des fanatiques de passage piéton? Ça ne valait pas le coup de se mettre dans l'état d'épuisement dans lequel je me trouvais. En allant jusqu'au métro, dans un air magnifique et, je me rends compte aujourd'hui, assurément grotesque, je snobais la chaussée en refusant de la regarder.
Voilà, si vous voulez en savoir plus sur les passages pour piétons et particulièrement celui-ci qui scintille la nuit, eh bien, il faudra vous adresser aux éditions Transition. Voilà. Merci Vanessa Terral. Deuxième auteur présent à notre micro, il s'agit de Magali Couzigou, qui elle représente en fait l'autre versant des éditions Transition, c'est-à-dire la collection Éveil, la revue Éveil, qui elle est plus consacrée donc au merveilleux. Et cette fois, la nouvelle que Magali Couzigou a écrite, et dont elle nous lira un petit morceau tout à l'heure, s'appelle « Cela ne me regarde pas ». Alors un peu même question, est-ce que c'est votre première publication à vous aussi?
Oui et non. En fait, j'ai publié une nouvelle dans un autre fanzine qui s'appelle AOC, qui est du Club Présence d'Esprit. Et j'ai une nouvelle qui a été retenue aux éditions Argemios, mais dans un recueil à paraître, dans une anthologie à paraître.
D'accord, donc il va falloir être patient pour vous lire chez Nathalie Do.
Tout à fait.
Alors, votre histoire, de quoi nous parle-t-elle?
C'est un conte qui raconte, qui parle d'un homme qui est très très méchant, vraiment très méchant, et une fée décide de le punir, et pour ce faire, elle donne la vie à de l'écume. L'écume qui s'est formée sur les flancs d'un cheval que l'homme en question a tué d'épuisement. Et cette écume-là ne se laisse pas vraiment faire. Elle n'a pas vraiment envie de répondre finalement à l'injonction de la fée qui lui dit de mener à bien cette punition. Et elle dit non, ça ne me regarde pas.
Voilà, donc le méchant n'est pas forcément puni.
Pas forcément, ou peut-être.
On le saura. Donc en lisant votre nouvelle au complet, mais tout de suite c'est un petit extrait.
Un petit extrait. L'écume vécut dans le lac paisiblement pendant plusieurs semaines. Le marécage était frais et humide. Ses bulles frémissaient sous les délicieux chatouillis des poissons de passage et elle ne demandait pas mieux que de continuer ainsi son existence. Mais un matin, il y eut du nouveau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça agresse, ça fait mal. « C'est étrange, » songea-t-elle. Ce ne fut qu'après plusieurs jours qu'elle parvint à trouver les mots pour cette drôle de sensation. Voir. En effet, des yeux lui avaient poussé, toute une série. Et grâce à ces yeux, elle avait une perception nouvelle de son environnement. Le marécage, découvrit-elle, était entouré d'une roselière épaisse, peuplée d'oiseaux par milliers. Et marchant dans ces roseaux, une silhouette pointait de temps en temps un long bâton vers le ciel, puis donnait un coup de pied à une silhouette plus petite. Et la fée apparut. Vois cet homme battre son chien sans raison. N'est-il pas cruel? Ne mérite-t-il pas une leçon? Sans doute, dit l'écume, mais cela ne me regarde pas. Et elle tourna ses yeux tout neufs dans une autre direction. Le temps passa. Un matin, des piaillements stridents éveillèrent l'écume et elle découvrit qu'il lui était poussé des oreilles. Le marécage résonnait des chants des oiseaux, des appels et des plongeons des grenouilles, du sifflement du vent dans les roseaux. En contrepoint s'élevait une note terne, saccadée, répétitive. L'écume vit alors sur la berge une jeune femme en larmes. La note était le bruit de ses sanglots. « Écoute, dit la fée, le chagrin de cette femme, c'est cet homme cruel qui l'a violentée, battue et chassée. À présent, elle désire mourir. » « C'est triste sans doute, dit l'écume, mais Je ne vois pas en quoi cela me concerne. Laisse-moi en paix. Je ne suis que de l'écume. Je flotte. Ta vengeance n'est pas mon problème. Je t'ai donné la vie, protesta la fée. Je ne t'avais rien demandé, rétorqua l'écume. Et elle se détourna, ne réagissant même pas à l'écho du dernier plongeon de la malheureuse.
Et voilà, comme quoi même les fées ont leurs petits problèmes, hein. On la sent très adolescente quand même, cette écume là, dans l'idée de ouais. Je fais ce que je veux et personne ne me dira comment faire.
Un peu, oui. Un peu égoïste aussi, un petit peu dans son coin, un petit peu. Bon.
Voilà.
Et un petit peu détaché du monde.
Ça s'appelle Cela ne me regarde pas. C'est aux éditions Transition dans la revue Éveil. Merci Magali Cousigou. Et puis on va retrouver Vanessa Terral qui est éditrice, certes, mais qui est aussi auteure et qui, elle, est aussi donc, publiée dans Pénombre. Donc on retrouve là un univers un peu plus noir que celui de Magali Cousigou. Et ça s'appelle Orange dans le métro. Alors on avait tout à l'heure des passages cloutés qui scintillent dans la nuit et maintenant un orage dans le métro, on s'en sort pas dans votre monde.
Non, en effet, mais vous remarquerez que ça reste très dans l'obscurité.
Oui, c'est très sombre, effectivement. Donc, qu'en est-il de cet orage métropolitain?
Eh bien, en fait, cet orage correspond à la deuxième enquête d'Eliante Palizède. Eliante Palizède est une jeune femme dont la grand-mère est une fée. Et voilà quelques années, les fées, les lutins ont annoncé à notre peuple « Bonjour, nous existons ». Et depuis, les humains ont un peu de mal à gérer ça. Et Eliante est une des toutes premières personnes qu'on peut consulter pour les fées occultes de manière officielle. On a fait un métier. Et il s'agit d'une de ses enquêtes.
Voilà, donc c'est un personnage récurrent.
Oui, tout à fait. On peut trouver ses aventures aussi dans un webzine, le Royaume des Fées. Et pour l'instant c'est tout, mais normalement je vais essayer, il devrait être publié à nouveau dans le Royaume des Fées numéro 8.
D'accord, ben on attend ça avec impatience. Et en attendant, pour justement patienter, eh bien, une petite lecture et un petit accompagnement de ce personnage. Donc,
Eliante avance dans le métro parisien à la recherche des créatures qui ont causé la mort de plus jeunes taggeurs.
Allons-y.
C'est parti. Il n'y avait plus de jalons lumineux. La jeune femme collait sa main contre la paroi de gauche. Sa paume éraflée la faisait souffrir. Il lui semblait aussi qu'elle saignait un peu. Toutefois, sa peur de quitter l'unique repère qui lui permettait de garder une distance suffisante avec le troisième rail, lequel ronronnait d'un courant électrique à 750 volts, l'obligeait à appuyer toujours aussi fort. De temps à autre, elle craquait une allumette et scrutait la trotteuse et ses sœurs qui disparaissaient sous la flamboyance du verre. La flamèche, bien que faible, affectait sa vue. Aussi, Eliante évitait de la créer trop souvent afin de garder sa vision ajustée aux ténèbres. Elle prenait de nombreux risques avec cette expédition. Il aurait été stupide de rater un indice en raison d'une inquiétude puérile. S'obligeait aussi à repousser au fond de sa mémoire l'image des 8 corps électrocutés exposés sur les tables de la morgue. Tous des jeunes hommes, des adolescents même. Des taggeurs habitués qui avaient choisi le mauvais secteur. Or, on trouvait aussi des enfants parmi ces artistes au nid des agents en uniforme. Eliante n'avait pas voulu attendre qu'un gamin subisse l'ire des dragons. Quand le bureau préposé aux affaires occultes l'avait contacté, elle avait accepté sur le champ. Pourtant, une pensée ne l'avait pas quittée de tout l'entretien, ni depuis qu'elle avait pris la charge de cette enquête. La magie gérait très mal l'électricité.
Voilà, là on est dans un univers qui est proche du thriller quand même, hein, avec un peu de magie par-dessus, un peu de fantastique. On a peut-être même des sensations de Mike Mignola aussi dans la bande dessinée avec son Hellboy, une petite société secrète comme ça qui fait des enquêtes un peu parallèles sur des choses qui ne sont pas forcément avouables.
Des choses que les humains sont peut-être pas tout à fait prêts à voir. Les lutins, ils gèrent, c'est bon, ils ont du mal, mais ça passe. Les grands dragons dans le métro, les minotaures qui se baladent dans certaines cités et autres, ils ont du mal encore.
Que fait la RATP? Très bien, en tous les cas, je vous remercie tous les trois d'être venus dans notre studio pour nous parler de votre travail qui, je l'espère, portera ses fruits et vous
Merci.
Apportera beaucoup de bonheur.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis, on n'aura malheureusement pas le temps de faire d'autres lectures, mais juste pour vous dire encore une fois que Vanessa Terral est publié aux éditions du Riez dans une anthologie qui s'appelle
Les Sombres Romantiques.
Voilà, pour une nouvelle qui elle s'appelle Le Corset de Sang. Mm-hmm. Et puis Anthony Boulanger, lui, est publié aux éditions Argemios dans une anthologie qui s'appelle Les Héritiers d'Homère.
Voilà, c'est ça.
Pour une nouvelle qui s'appelle
La Descente aux Enfers d'Orphée et Eurydice.
Voilà, et là on rejoint les grands classiques. Bravo à tous les trois et puis bonne continuation. Juste un rappel des coordonnées où on peut joindre l'association.
Alors le forum projet.transition.free.fr. Pour tout mail, toute question, projet.transition@free.fr. Et le blog, vous prenez l'adresse du forum et vous rajoutez / blog à la fin.
Et voilà, c'est parti. Merci encore.
Merci beaucoup.
Voilà, on se retrouvera dans quelques instants en compagnie de Joël. Et puis, ce sera une pause musicale pour tout de suite.